Question que posait récemment un prédicateur. Un prédicateur évangélique, adepte, vous vous en doutez, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'évangile de la prospérité. Pourquoi est-ce que tous les fils et toutes les filles du grand roi ne rouleraient-ils pas en Mercedes? Après tout, toutes les richesses, y compris les firmes les plus prestigieuses, lui appartiennent, non? Alors pourquoi? La question mérite d'être posée. Pourquoi? Pourquoi le fait est que tous ne connaissent pas une égale prospérité? Sans doute que le grand roi, sans doute que le maître de l'univers a autre chose en vue pour eux, pour un temps encore. Demandez aux chrétiens de l'église de Smyrne, demandez-leur quel lot le grand roi, quel lot le maître de l'univers leur a réservé. Alors, les chrétiens de Smyrne, il n'est pas sûr que vous soyez très nombreux à les connaître de manière intime. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui, et éventuellement un autre dimanche, Dieu voulant, de faire leur connaissance. Il se trouve que le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, ressuscité, vivant, glorifié, a adressé à ses chrétiens une lettre. Et nous allons dans un instant la relire et nous efforcer d'en tirer quelques enseignements. Auparavant, je voudrais dire quelque chose concernant cette église et plus particulièrement le contexte dans lequel elle vivait à l'époque où le Seigneur lui a adressé cette lettre. Fondée par les Grecs au XIIe siècle avant Jésus-Christ, Smyrne, à cette époque, donc, est une grande et belle cité, fière de ses richesses, fière de sa splendeur, qui dispute à Éphèse, dont nous avons parlé il y a quelques semaines, et à Pergame, dont nous parlerons peut-être un jour, le titre de première d'Asie. Ces maisons, nous dit-on, s'élèvent du bord de la mer, au sommet du mont Pagus, une colline de 175 mètres, couronnée de temples et autres édifices et formant une acropole idéale. On y adore l'empereur, mais aussi Isis, Aphrodite et surtout Cybèle, la déesse mère. Depuis la chute de Jérusalem en l'an 70, Smyrne abrite également une importante communauté juive, à laquelle d'ailleurs le Seigneur fait allusion dans sa lettre. Alors quant aux chrétiens de Smyrne, eh bien nous ignorons à peu près tous deux. Seul Polycarpe, drôle de nom, l'un de ses pasteurs, dont on dit qu'il fut le disciple de Jean et qu'il subit le martyre en l'an 155, a inscrit son nom dans l'histoire. Voilà pour la ville de Smyrne et ce que l'on sait, c'est-à-dire très peu de choses, de l'église à Smyrne. Le moment est venu pour nous de relire donc la lettre que Christ a eu à cœur de lui adresser via Jean, son vieux mais toujours fidèle témoin. Et je vous invite, si vous avez une Bible sous les yeux, à l'ouvrir dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 8 à 11. Et je ne doute pas que vous avez une Bible sous les yeux. Vous avez bien un portable pour rester en contact avec tout le monde, des fois que vous avez également, heureusement, votre Bible pour rester en contact avec l'essentiel. Apocalypse 2, donc, nous lirons à partir du verset 8 et jusqu'au verset 11. Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, je connais tes œuvres. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Quelques mots pour commencer à propos du prologue. Le prologue, verset 8. Je relis, voici, fait écrire le Seigneur, ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. La phrase est importante. Elle est l'occasion pour l'auteur de notre lettre, Christ donc, de se présenter à ses lecteurs. Et comment ? D'abord, comme celui qui est à la fois le premier et le dernier. C'est-à-dire, en réalité, comme Dieu lui-même. Car le titre que Christ se donne ici est un titre divin. C'est même un titre qui, jusqu'ici, était resté la propriété exclusive de Dieu. Voici ce que dit l'Éternel, nous rapporte le prophète Ésaïe, le roi d'Israël et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Ainsi, on se présente ainsi, comme il le fait ici, Christ n'affirme rien de moins que sa divinité. Il est Dieu. Et en tant que tel, il est bien sûr le premier, celui qui précède toutes choses et par qui toutes choses ont été faites. Rappelez-vous cette déclaration de l'évangéliste, au commencement la parole, entendez Christ, existait déjà. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sa manière de confirmer ce que l'apôtre Paul a déjà déclaré, c'est en lui que tout a été créé par lui et pour lui. Mais en tant que Dieu, Christ est aussi le dernier. Vivant depuis 12 jours et à jamais, il préside à la fin de toute chose, autant qu'à leur commencement. D'où nous tirons, entre autres choses, cette formidable assurance, la fin sera sa fin, autrement dit, celle qu'il a décrétée. Mais il nous faut poursuivre et noter que Christ se présente ensuite comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Après l'affirmation de sa divinité, donc, le rappel de son œuvre en tant que Fils et Christ de Dieu. Sa mort d'abord, celui qui était mort. À l'humble église de Smyrne qui connaît la tribulation, et que guette encore l'infamie et la persécution, le Seigneur commence donc par rappeler sa mort. Vous qui souffrez, et qui allez souffrir encore, rappelez-vous, j'ai moi-même souffert. Et bien plus que vous ne souffrirez jamais. Moi, le juste, faut-il vous le rappeler ? Nous l'avons nous-mêmes rappelé il y a un instant. J'ai été rabaissé au rang des criminels. Moi, le pur, j'ai été chargé de toutes les souillures du monde. Et l'on m'a craché au visage, et l'on s'est ri de moi. J'ai été déchiré par le fouet, j'ai été couronné d'épines. On m'a conduit au calvaire, et là, j'ai été crucifié. J'étais mort. Non à cause de mon péché, mais à cause du vôtre. Non que la mort eût un droit quelconque sur moi, mais parce que j'avais décidé librement de me livrer à elle, la mort, à votre place. Afin que par sa mort, vous soyez sauvés. Oui, j'étais mort. Mais mon histoire ne s'est pas arrêtée là. Moi qui étais mort, je suis revenu à la vie. Après le rappel de son sacrifice, donc celui de sa résurrection. Après l'apparente défaite, l'éclatante victoire. Cette mort dont le règne jusque-là était resté incontesté. cette mort, il l'a vaincue. Oui, dit en substance le Seigneur, j'ai vaincu la mort. Et voici ce que je désire aujourd'hui, et que vous participiez, vous, à ce triomphe. Ce que je veux, c'est vous arracher aux ténèbres pour vous transporter tous dans l'éblouissante lumière de Dieu où je me trouve maintenant. C'est vous soustraire à la mort pour vous introduire tous dans cette vie abondante qui ne se goûte que dans la communion avec mon Père. Précieux rappel, depuis qu'un certain matin de Pâques, celui qui était mort est revenu à la vie, nous avons cette certitude que ce n'est pas la mort qui aura le dernier mot dans notre histoire, mais bien la vie. Nos deux histoires, celle du Seigneur et la nôtre, sont désormais et à jamais indissociables. Mais en réalité, écrivait déjà l'apôtre aux chrétiens de Corinthe, Christ est ressuscité, précédant ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. À ceux donc qui souffrent, aux prises qu'ils sont avec les forces des ténèbres, le Seigneur déclare « Ces puissances de mort ont été terrassées et le jour est proche où la mort elle-même sera comme engloutie dans mon triomphe. » Oui, avait-il promis par la bouche d'Osée, son serviteur, « Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts. Je les rachèterai de la mort. Mort, où est ton fléau ? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction ?» Voilà pour le prologue. Venons-en maintenant au cœur de la lettre. Je veux dire au chapitre, au verset 9 et 10, dans lesquels nous trouvons clairement formulé le message de Christ à l'église de Smyrne. « Je connais tes œuvres, » fait-il écrire, « ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Selon que l'on est plus ou moins sensible à tel ou tel aspect de ce message, la présentation qu'on en fera variera sensiblement. Pour ma part, je retiendrai 2 choses de ce que le Seigneur dit ici à son Église. 2 choses. D'abord que l'Église de Smyrne est une Église qui a tout pour être découragée. L'Église de Smyrne a tout pour être découragée. Je sais, dit le Seigneur en substance, tu es une Église que l'épreuve n'a pas épargnée. Et vous noterez d'emblée la pleine connaissance que Christ possède de toute situation. « Je connais », fait-il dire à ses amis smyrniotes. « Je connais ». Le Seigneur sait toutes choses. Ne l'oublions jamais. Il savait pour Smyrne. Il sait pour nous aujourd'hui. Aucune des épreuves qui nous touchent ne lui est inconnue ou indifférente. C'est Jacques Ellul, un auteur que peu connaissent aujourd'hui, mais que j'aime citer, c'est Jacques Ellul qui écrivait il y a quelques années « Le pauvre, le misérable de nos jours, c'est surtout celui que l'on a oublié, celui que personne ne connaît, celui que personne ne reconnaît. Celui que l'on a condamné à vivre seul, terriblement seul, sa terrible agonie. Quel réconfort pour nous de savoir que nous ne connaîtrons jamais cette pauvreté ultime. Car quand bien même tous ignoreraient notre peine, le Seigneur, lui, saurait. La détresse la plus insupportable, répétons-le, est celle que l'on traverse seul. Or, le chrétien, lui, n'est jamais seul. Christ a promis de l'accompagner quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Et dès lors qu'il a l'assurance d'avoir toujours à son côté quelqu'un qui connaît, plus encore, qui comprend, plus encore, qui compatit, et à qui il peut dire tout ce qu'il a sur le cœur, il a cessé d'être misérable. En un sens, il est même devenu le plus heureux des hommes, puisque Dieu, nous le savons, s'est engagé à se faire plus proche encore de celui précisément que la souffrance a courbé, que l'épreuve écrase, afin de le consoler, le relever et l'affermir. Mais revenons à l'église de Smyrne. Nous avons dit qu'elle avait tout pour être découragée. Pourquoi ? Quelles sont au juste les choses qui l'accablent et font d'elle une église qui pourrait très bien, un jour, décider de jeter l'éponge, d'abandonner le combat ? Notons tout d'abord que, si l'on en croit notre texte, elle est durement éprouvée. « Je connais, dit le Seigneur, ta détresse. » Ta détresse. Le mot qu'il choisit ici est un mot qui dérive du verbe « écraser » et que l'on pourrait traduire par « épreuve »,« tristesse » ou « tribulation ». Mais plus encore peut-être, par « oppression », voire « persécution ».« Je sais, dit en substance Jésus, que tu es écrasé. » Normal. Souvenez-vous des paroles que j'adressais jadis à mes disciples. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, à cause de moi. Et je leur ai dit cela à mes disciples, afin qu'ils ne trébuchent pas et que vous-même ne tombiez pas. Christ avait donc prévenu les siens. Et nous avec eux, nous aussi serons tenus pour gênants. Repoussé parfois comme indésirable, rejeté comme insupportable, et pour certains d'entre nous, écrasé, broyé, anéanti. Notre part aux souffrances de Christ, si j'en crois l'Écriture. Cela dit, le fait que l'on ait été averti rend-il plus légère l'épreuve subie ? Non. Et pour revenir à nos frères et sœurs smyrniotes, ils en bavent. On est loin de ce pseudo-évangile de la prospérité. Ils en bavent. C'est au point que l'on peut légitimement se demander s'ils vont tenir encore longtemps. Pas un moment de répit, mais tous les jours les mêmes attaques, tous les jours la même lutte, et tous les jours, oui, peut-être la même envie de tout laisser tomber, de ne plus croire en rien. Pour ne plus avoir à souffrir, de se laisser reprendre doucement, tout doucement, par le monde, pour ne plus avoir à se battre. Tentation que l'un ou l'autre a pu connaître, ou connaît ce matin. Et s'il n'y avait que cela ? Mais l'église de Smyrne n'est pas seulement persécutée, elle est aussi démunie, elle est pauvre, disons-nous. Je connais, dit le Seigneur, ta pauvreté. Et le terme utilisé ici est encore très fort, il renvoie à un état de misère extrême, de dénuement total. Non, décidément, on ne peut pas dire que les chrétiens de Smyrne soient particulièrement gâtés. Alors qu'à moins de 300 km à Laodicée, il y a des chrétiens qui ne savent pas quoi faire de leur argent, eux n'ont pas le minimum qui leur permettrait de vivre décemment. Comme quoi ? La foi la plus authentique n'est jamais une garantie d'abondance. Et qu'il est tout à fait possible d'être parfaitement en règle avec Dieu, et cependant d'être privé de tout, ou presque. nous est sans doute difficile à nous d'imaginer ce que c'est que de manquer de tout et de ne pas savoir si demain il y aura encore du pain sur la table, pour soi, mais pire encore pour ses enfants. C'est pourtant très exactement ce qu'en ce moment même, à la suite des chrétiens de Smyrne, vivent des millions de femmes et d'hommes, et parmi eux, tant de chrétiens. Tant de chrétiens. Mais revenons une fois encore à l'église de Smyrne. Si elle n'était que persécutée et pauvre, mais elle est encore l'objet d'attaques aussi incessantes qu'injustifiées. Elle est calomniée, lisons-nous à son sujet. « Je connais, dit le Seigneur, les calomnies de ceux qui se disent juifs ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Nous ne chercherons pas ce matin à deviner en quoi consistent exactement ces calomnies. Nous nous contenterons de faire deux remarques les concernant. La première a trait au terme grec que nous traduisons par « calomnie ». Il s'agit en réalité du mot « blasphème ». Et cela mérite d'être relevé. En taxant les calomnies juives de blasphème, le Seigneur en effet nous montre que ces calomnies l'outragent lui en outrageant les siens. Ne l'oublions jamais, s'attaquer à l'Église, c'est s'attaquer à Christ lui-même. Et toucher injustement aux chrétiens, c'est s'en prendre à la personne même de Dieu. La seconde remarque touche à la façon dont sont désignés les adversaires de l'église de Smyrne. Ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont en réalité une synagogue de Satan. Deux choses sont à noter ici rapidement. D'abord, que le Seigneur établit une distinction entre les vrais et les faux juifs. Les vrais étant ceux qui ont reconnu en Jésus le Messie de Dieu, et les faux, ceux qui, bien qu'israélites selon la race, après qu'ils ont rejeté Jésus, méprisent et tourmentent ses disciples. Ensuite, que le Seigneur ne les ménage vraiment pas, ces faux juifs, ces faux juifs. Ils se réclament de Dieu, fait-il écrire, mais ils ne sont en réalité qu'une synagogue de Satan. Un langage que l'on qualifierait aujourd'hui de largement politiquement incorrect. Parce que, voyez-vous, il n'existe pas de position intermédiaire. On a tendance à l'oublier en ces jours de pseudo-tolérance qui sont les nôtres. Il n'y a pas de position intermédiaire. Ou bien l'on appartient à Dieu et à son Église, ou bien on appartient à Satan et ce que Christ appelle sa synagogue, sa communauté. C'est Bob Dylan, encore un auteur passé de mode. On a l'âge qu'on a, hein, et les références que l'on peut avoir. C'est Bob Dylan qui chantait « Il vous faut servir quelqu'un ». Ce peut être le Seigneur, ce peut être le diable, mais il vous faut servir quelqu'un. Alors, je dis bien, c'est Bob Dylan, ne cherchez pas dans votre concordance. Encore que, on trouverait quelques versets qui s'approchent de ces quelques vers. Quel avertissement en tout cas. Non seulement pour ceux qui persécutent l'Église et démontrent par là qu'ils sont les hommes de main, si je puis dire, du prince de ce monde, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi qui ils veulent servir. Ceux-là doivent savoir que tant qu'ils ne s'engageront pas nettement pour le Seigneur, nettement pour le Seigneur, ils continueront d'appartenir et de servir le royaume des ténèbres. Alors, mes amis, permettez que je pose la question, qu'en est-il de vous, au service de qui êtes-vous ce matin? Mais le temps passe, et j'aimerais, avant de conclure, considérer avec vous la quatrième et dernière raison pour laquelle l'église de Smyrne pourrait très bien être tentée de tout plaquer, comme on dit. Elle va souffrir encore. C'est exactement ce que le Seigneur vient tout juste de lui dire, verset 10, tu vas souffrir. Voici, explique-t-il, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. En fait, les mauvais jours, mes amis, ne font que commencer. L'église de Smyrne pensait peut-être avoir fait le plus dur, eh bien non. Non, lui dit Jésus, la détresse, la pauvreté et la calomnie que tu as connues, toutes ces choses n'étaient que les prémices d'une longue épreuve. Celle que tu vas connaître maintenant et qui durera 10 jours, autrement dit, dans le contexte, longtemps. Quel encouragement! Quel encouragement! Apprendre tout d'un coup, alors que l'on se bat depuis des mois, des années même, contre tous ces ennemis de Christ qui voudraient vous réduire au silence, apprendre tout d'un coup que son Dieu, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricordieux surtout, dont on attend à tout instant la délivrance, apprendre que ce Dieu-là a tout simplement décidé d'accorder au prince des ténèbres la permission de s'acharner encore contre soi, quel réconfort! L'église de Smyrne, décidément, les collectionne. Après l'oppression, la pauvreté, après la pauvreté, la calomnie, et après la calomnie, la souffrance pendant 10 jours, c'est-à-dire un temps limité, certes, 10 jours, mais long, très long. Et je me pose la question, que ferions-nous à la place des chrétiens de Smyrne? Je crains que plus d'un ne serait vite tenté de, comme je le disais tout à l'heure, jeter l'éponge. Assurément, l'église de Smyrne a tout, vraiment tout, pour perdre courage, sinon espoir. Mais là ne s'arrête pas, fort heureusement, le message du Seigneur, qui ajoute bientôt à son sujet qu'en dépit des apparences et de ce qu'elle ressent, elle est bien heureuse, cette église. La plus fortunée même des communautés chrétiennes. Pourquoi ? C'est ce que nous verrons, Dieu voulant, un prochain dimanche. En attendant, c'est encourageant, ça. Pas toujours. En attendant, formons un vœu. Que l'exemple de l'église de Smyrne nous serve d'avertissement. Le fait incontestable que nous sommes une assemblée chérie par Dieu ne nous dispensera pas de connaître l'épreuve. Et ce qui est vrai de notre communauté l'est de chacun d'entre nous. Tôt ou tard, nous aussi serons testés. Et peut-être même sévèrement, car pourquoi nous leurrer, c'est le lot de l'Église d'être tourmentée et de souffrir, jusqu'à l'avènement de son chef, son divin chef, et son ultime promotion dans la gloire. Dès lors, autant nous préparer à ces temps d'inconfort qui nous sont promis. Et à cette fin, revenir régulièrement à l'image que nous livrait tout à l'heure notre lettre de Christ, possédant en lui-même la plénitude de la divinité, présent au commencement et à la fin, toujours présent du début à la fin. Mort, parce qu'ayant accepté de donner sa vie, afin que par sa mort, ceux à qui le Père donne de croire ne périssent point, mais aient au contraire la vie à jamais. Et puis vivant, parce que ressuscité, lui que le trépas ne pouvait retenir dans ses liens. Vainqueur donc de la mort, et bien décidé à nous offrir aujourd'hui de triompher avec lui de ce redoutable ennemi qui nous réclame encore. Sensible enfin à tout ce qui nous touche est catégorique, il ne nous abandonnera pas, mais restera au contraire toujours présent à notre côté pour nous affermir à l'heure de l'épreuve. Puisse cette nouvelle vision de notre Seigneur éternel, mort, ressuscité, vainqueur, compatissant et fidèle, nous pénétrer assez ce matin pour nous rassurer et nous fortifier en vue des moments difficiles qui risquent fort d'être notre lot pendant 10 jours. 10 jours seulement, mais 10 jours quand même.